Oui, bonjour, moi je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je ne suis pas gestionnaire, mais j'ai été sensible à ce que vous avez dit sur le premier point, ou peut-être le deuxième, sur la reconnaissance par qui, où vous différenciez d'une part la reconnaissance par l'organisation, donc en fait le milieu professionnel, et d'autre part la reconnaissance par les proches, en fait le cercle familial. Et j'ai trois questions, mais la première question c'était de savoir si d'une certaine manière on pouvait comparer ces deux types de reconnaissance. Parce qu'en fait, il y en a une qui me semble plus liée à la reconnaissance pour ce qu'on fait, et l'autre plus liée à la reconnaissance pour ce qu'on est. Donc, est-ce qu'on peut étudier et comparer à un même niveau logique ces deux types de reconnaissance ? La deuxième question, elle est plus liée à la reconnaissance, vous l'avez dit, en termes d'identité, est-ce qu'on ne peut pas se reconnaître soi-même d'abord ? Ça me semble lié à la notion de confiance en soi. Est-ce que, c'est ma seconde question, il n'y aurait pas un lien entre la confiance et le besoin de reconnaissance ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction d'une absence, d'un déficit de confiance et d'un trop plein de confiance, on aurait besoin du même type de reconnaissance ? Même type, même nature, même quantité, je ne sais pas comment dire. Et la troisième question, elle est liée en fait à la toujours pareil, la reconnaissance par qui ? Par l'organisation. Et j'aurais souhaité si vous pouviez préciser ce que vous entendiez par l'organisation, parce que vous avez dit par ailleurs que la reconnaissance pouvait être monétaire ou non monétaire. Et quand elle est non monétaire, est-ce que finalement la reconnaissance ne serait pas liée systématiquement à la légitimité institutionnelle de celui qui la distribue ?
Je vais répondre à la dernière parce qu'elle me paraît évidente. Quand je disais il peut y avoir une réaction, une relation d'identification, il est évident que si vous ne respectez pas et n'admirez pas votre responsable, bon, ça ne se passera pas. Hein, et si vous félicite, c'est du rouble non convertible, ça n'a pas grande valeur. Hein. C'est-à-dire que, bon, ok. Donc là-dessus, celle-là, elle est facile. Sur l'équilibre familial, reconnaissance familiale, reconnaissance professionnelle, ce qui semble le plus vrai dans tous les livres qui sortent actuellement, il y a encore un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps avec des jeunes qui s'échangent sur Internet, des choses, et puis ils ont tout collationné. Ça s'appelle l'Open Space m'a tué. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, bon, il en sort de... Oui, des jeunes, ouais, enfin moins de 40 ans, quoi, c'est des jeunes. Ouais, moins de 60. Mais attendez, des livres comme ça, il y en est sorti 25 dans les 12 derniers mois. Je ne sais pas si vous regardez les livres qui sortent actuellement, la tonalité qu'il y a sur le travail. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ? C'est, je ne veux pas me faire avoir, je sais que de toute façon, à 50 et des années, si je n'ai pas pris l'ascenseur ou si je ne possède pas mon entreprise, je n'ai pas grande valeur de marché, donc on finira tous consultants, hein, pour ceux qui n'ont pas de sécurité d'emploi. J'ai vu ce qui est arrivé à mon père ou à ma mère, et donc je vais essayer de ne pas collectionner un ou deux divorces, parce que quand même, moi, des gens de Bouygues, chef de chantier à Meudon actuellement, bon, le Portugais, il est quand même encore divorcé. Bon, en fonction de tout ça, vous comprenez bien que la reconnaissance dans le milieu familial. Reconnaissance, le mot ne s'applique peut-être pas, c'est de mettre en péril son ménage pour sauver sa peau dans les affaires, en y perdant son ménage, la garde des enfants et le reste, et le reste, et le reste, et le reste. Hein. Il faut quand même réfléchir. Alors il y en a qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas le choix, ou ils ne se posent pas les questions, ou ils n'ont pas vu venir le coup. Mais moi, c'est pas exactement pour ça que j'avais dit ça. C'est que, et ça lie à votre autre question sur l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, tout ça, c'est pas des concepts super scientifiques. Hein. De façon, comment je dirais, intuitive, on comprend tous ce que c'est que la confiance en soi. On comprend tous à peu près l'image qu'on peut avoir de soi. Toute la littérature sur les compétences, si vous la regardez d'un peu près, elles mettent une variable intermédiaire qui est l'image plus ou moins positive qu'on a de soi. Et l'estime de soi, vous comprenez aussi. Alors, ça peut se mesurer, il y a des échelles. Mais ce que vous dites est parfaitement vrai. C'est que quelqu'un qui a beaucoup d'estime de lui, c'est-à-dire probablement une identification positive avec des modèles parentaux et auxquels sa vie peut se conformer, Dieu merci, parce qu'il n'est pas obligé de faire des choses où il a eu la chance de pouvoir faire des choses, qui étaient positivement valorisées dans son milieu familial. À ce moment-là, c'est vrai qu'il est moins dépendant de l'applaudimètre. Il est moins dépendant des autres. Et vous savez bien, juste pour faire une incidente, que la pire des choses pour un responsable, c'est d'avoir besoin de l'amour ou de la reconnaissance des autres. C'est pas la peine, je veux dire, là, terminé, vous êtes manipulé.
Bonjour. Je voulais revenir sur deux aspects. Le dernier, vous avez dit, par rapport à votre enquête, pourquoi ça serait... Enfin, c'est un mal nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'en en même temps, donc personne ne veut y renoncer, tout le monde trouve ça insatisfaisant, enfin tout le monde.
Et ça n'existait pas avant.
Voilà, alors pourquoi c'est un mal nécessaire, d'autant plus dans, je dirais par exemple, il y a un certain nombre de textes qui disent bah, en France, c'est à la limite tout à fait normal que ça ne fonctionne pas, puisqu'on n'est pas sur la logique du contrat. Enfin vous voyez, il y a ces critiques par rapport à ça, donc... est-ce que vous pouvez expliciter ce côté mal nécessaire ? J'enchaîne peut-être sur la deuxième, comme ça vous avez la totale. Je voulais revenir sur le deuxième aspect qui était finalement cette relation transférentielle avec le manager. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le moment de l'entretien, qui est un moment un peu inédit dans une relation professionnelle, c'est on ferme la porte, on se met à deux, c'est... Ben moi je trouve que quand même c'est source de plein de choses quoi, en termes d'image et de fantasmes et bon. Et je me dis est-ce que c'est pas un moment extrêmement
important? Le fantasme,
elle
a dit. Mais...
Ben oui. Alors,
Oui. Je voulais juste réagir en vitesse pour faire une blague. C'est que au Canada, aux États-Unis maintenant, quand un professeur reçoit un étudiant d'un autre sexe, maintenant il y a même des homosexuels, alors ça complique, mais il faut laisser la porte ouverte. Ah, vous aussi ? Vous aussi ? Il faut laisser la porte ouverte. Bon, on referme le fantasme, on ouvre la porte. Allez-y.
Donc, je me disais, est-ce que finalement... ma question, c'est est-ce que c'est pas un lieu où va se réactualiser cette relation transférentielle que vous avez évoquée, qu'on a peut-être eu à un moment donné lors de la rencontre initiale, lors du recrutement par exemple, ou lors des premiers, lors de l'intégration professionnelle, la phase de socialisation, etc. Et est-ce que c'est là où à un moment donné, d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas arriver à se dire, bah tiens, maintenant c'est un peu un moment, je ne vais pas dire de vérité parce que ça serait peut-être un terme, mais un moment de réel, voilà, quelque chose comme ça, un moment de réel, où on va dire, bah, de quoi finalement tu es fait dans ce contexte à enjeu, hein, parce que le manager, bah, il doit aussi faire attention à la façon dont il évalue. Et est-ce que là, il a des enjeux, lui, faits par son propre N+2? Est-ce que là, du coup, l'admiration que j'avais, elle prend des risques en tant que subordonné? Enfin, voilà. Je voulais vous entendre là-dessus.
Faut revenir en arrière, parce que... En général, l'histoire, c'est pas intéressant. Maintenant, les étudiants, ils nous disent « Quoi, sur ton cas, c'est marqué 2004 ?» Mais ça vaut rien, tu nous passes des documents de 2004. Alors, les profs remettent toujours 2009. Comme si ce qui se passe... Ou 2008. Comme si ce qui se passait entre les hommes et les femmes était différent en 2005 ou en... Bon, enfin, c'est fou. Mais... Bon, qu'est-ce qui se passait jusque le Gélinier dont on parlait ou le Peter Drucker dont on parlait tout à l'heure? Je veux dire, on construit des cathédrales, on fait des usines, des voitures depuis. Bon, on n'a pas attendu ces gens-là. Comment ça se passait avant? Je me souviens, je travaillais à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme conseiller à un moment et je leur ai dit, vous prenez bien des décisions d'augmentation de salaire, oui ou non? Oui. Vous prenez bien des décisions différentes pour faire évoluer des gens vers des postes plus élevés. Oui ou non? Oui. Sur quelle base les prenez-vous? Ah ben alors, le directeur du personnel, une 4200 personnes sur les filiales, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, décidait au finish de l'augmentation de ces 4200 personnes. Il avait le final. Il n'y avait pas d'enveloppe par établissement. Bon. Donc je leur ai dit, mais comment vous croyez que c'est perçu par les salariés? Et c'est là où vous arrivez sur pourquoi le fait de dire, attends, tu as signé un contrat de travail, d'accord, tu es dans une subordination librement consentie, une soumission librement consentie. Tu peux t'en aller, hein, si tu veux. Bon. Mais je vais jouer sur table. Je vais donner des règles du jeu explicites. Si tu n'aimes pas, tu t'en vas. Vous voyez déjà, quand je dis tu t'en vas, la dissymétrie. Hein. Bon. Donc, voilà, on va jouer clair, explicite, formalisé. On va négocier des objectifs. La belle blague. Négocier des objectifs. Alors, je vais vous donner un grand groupe américain, ce qu'ils répètent tous en cœur dans les réunions de cadre. Ils répètent tous en cœur. Et je me dois d'emporter l'adhésion de mes collaborateurs. Hein, répétez en cœur. Et je me dois d'emporter l'adhésion. Si vous voyez ce que ça veut dire que le siège US au siège Europe à Paris dit « tu feras tant de chiffres à la Défense », qu'à la Défense, il y a 100 ingénieurs commerciaux de cette boîte-là, et qu'il va falloir répartir le quota entre les 100. Et que moi, j'en ai 20 ou 15 sous mes ordres, et il faut que je place ce chiffre d'affaires. Alors après, je fais au mieux, j'adapte avec les personnes, le potentiel, etc. Mais au final, je me dois d'emporter l'adhésion, vous avez compris. Alors, donc les objectifs sont fixés. À la fin de l'année, on se rend compte. Alors, il y a des tas de gens qui disent, mais c'est vachement clair et vachement simple. Objectif pas atteint, pas de bonus, note 3. Attendez, vous y croyez, vous? Vous y croyez? Vous avez déjà été dans un tribunal? Vous savez ce que c'est que des plaidoiries d'avocat? Objectif pas atteint. Attendez, moi, je vous plaide 2 heures, pourquoi je ne les ai pas atteints? Et vous me plaidez 2 heures, pourquoi j'aurais dû les atteindre? Et qui a raison? Le juge? C'est qui le juge? Ah ben c'est justement l'avocat d'en face. Ah c'est embêtant ça. Jugé parti, ça viole toutes les règles du droit. Le patron est jugé parti, puisqu'il va négocier avec vous pourquoi vous auriez dû les atteindre. Il va acheter ou pas acheter vos argumentations. Alors, quand même, je réponds à toutes les questions. Donc, l'histoire...
Désolé, un tout petit peu plus rapidement, parce que René Muller a encore une question et on n'aura pas...
Donc, dans ce que je veux dire, c'est en dépit de tout ce que je viens de dire qui est plutôt critique, quand même, il y a peut-être un progrès, un grand pas en avant d'avoir discuté, j'ai pu me bagarrer, j'ai pu négocier avec mon patron, etc., etc. Bon. Là, c'était pour le mal nécessaire. Ce que je veux dire, aucun système n'est parfait. La définition de la démocratie, selon Churchill, ça s'applique parfaitement. D'accord ? Le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Moi, je dis, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Je préfère ça à, voilà, ton enveloppe. Tu as une enveloppe, tu sais pas pourquoi, etc. Alors, attends, j'ai pas fini. Le culturel, les Américains, pareil, ça marche pas mieux. Non, c'est pas une question de culturel. Les Français sont pas pires que les autres sur ce monde-là. L'instant privilégié. Ouais, ça, c'est de la théorie. Ouais. C'est ce qui devrait se passer. Mais toute relation s'inscrit dans une histoire. Et tout dépend de l'histoire. À partir de là, j'ai pratiquement tout dit. S'il y a une histoire heureuse, confiante, ça peut être un moment privilégié. Si c'est une histoire de dupe, de faux-semblants, d'hypocrisie de chaque côté, encore un coup de plus. D'accord ?
Oui, mais c'était plutôt 2-3 remarques en relation avec ce que vous avez dit. La première chose, c'est que je trouvais que c'était intéressant de pointer que dans reconnaissance, il y a aussi, dans reconnaître, il y a connaître. Et donc, il y a toujours potentiellement la relation de maîtrise à l'autre, en fait. Et ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est que je me demandais s'il n'y avait pas tout le temps, dans l'idée de reconnaissance, dans l'entretien d'évaluation, en fait, un jeu... de pouvoir qui confond les deux. C'est-à-dire qu'au fond, on promet de la reconnaissance et en fait, on construit de la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que l'entretien d'appréciation, qu'est-ce qui va être consigné après? Ça va être de la connaissance. Et donc, je pense qu'il y a un peu une confusion des deux, enfin, qui a été organisée pour vendre le système. La deuxième chose aussi, très rapidement, c'est que je me demandais si, en termes de recherche, ça ne serait pas intéressant de valoriser la reconnaissance comme un espace de retrait, et notamment, par exemple, dans l'entretien d'évaluation. Mais espace de retrait, en fait, par rapport à quoi ? On a vu que l'entretien d'évaluation, ça peut être porteur d'une relation de jugement et donc d'une relation de pouvoir très forte, et donc avec une dimension instrumentale qui porte, je dirais, sur la manière dont la personne a travaillé. La reconnaissance de l'espace de retrait, ça serait tout ce qui tourne finalement autour du quant à soi, autour de la reconnaissance de, entre guillemets, l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire de la personne en tant que telle. Et je trouve que dans un laboratoire, disons Infocom, ça serait en particulièrement intéressant de travailler sur est-ce que les gens, par exemple, qui sont évalués ou qui évaluent, comment est-ce qu'ils perçoivent l'existence de cet espace ? Est-ce qu'ils l'ont ? Est-ce qu'ils en ont besoin ? Et voilà.
Est-ce que je peux répondre à vous ? S'il vous plaît, parce que j'ai du mal là. Allez-y.
Oui, moi, je ne voudrais pas m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Je ne suis pas une spécialiste en plus de l'entretien d'évaluation, mais dans le travail empirique qu'on a fait en rencontrant nos cadres de santé et nos cadres bibliothécaires, on a travaillé spécifiquement sur cette question de l'entretien et du vécu, et comme évaluateur, et comme évalué, puisqu'on a interrogé des cadres intermédiaires, et parce que justement, ils étaient à la fois managers de proximité et en même temps eux-mêmes soumis à une pression hiérarchique. Et ce qu'on a vu en partie, c'est que ces entretiens d'évaluation ne sont pas systématiquement le lieu où se pose le jugement, en particulier dans la fonction publique. Il y a des tas d'endroits où, de toute façon, la note est donnée d'avance, où une entente syndicale peut dire que, de toute façon, tout le monde a la même note, parce que comme ça, au moins, il y a une forme équitable de répartition de l'enveloppe sans histoire de quotas, justement. Et du coup, dans les interstices, justement, laissés libres par ce moment pris ensemble, eh bien, se passent des choses qui sont de l'ordre de l'engagement intersubjectif et professionnel, et où se nouent et se jouent des choses qui sont finalement plus positives que ce moment qui pourrait être uniquement instrumental de jugement, d'évaluation, que vous décrivez dans le privé comme étant très négatif. Mais il y a des possibilités. Alors, je ne sais pas s'il faut opposer public et privé. Je ne crois pas dans toutes les situations. Mais en tout cas, ça peut être, cet entretien, l'occasion de ménager. C'est pour ça que cette idée d'espace de retrait m'intéresse, parce que c'est espace au sens physique, temporel, et même parfois où on s'abstrait de la relation hiérarchique. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans la relation de travail quotidien, certains nous disent, on essaie de ne pas mélanger le privé et le professionnel, d'être sans arrêt dans notre fonction d'encadrement, et justement de ne pas mêler la sympathie, par exemple, qui pourrait être confondue avec des signes d'une reconnaissance qui ne serait pas justement attribuée ou sincèrement attribuée. Eh bien, on va profiter de ce laps de temps où, effectivement, on s'enferme à deux dans un bureau, pour précisément laisser de la parole aussi à une interaction qui est beaucoup plus où se joue de l'affectivité, de l'engagement. Il y a des clairs-obscurs, en effet, sur ce terrain-là.
Une dernière réponse, mais vraiment très rapide. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous dites. Très intéressant, c'est que finalement, dans le privé, on pourrait dire, si on était dans un processus de jugement, parce que finalement, il y a dans l'entretien d'évaluation un côté potentiellement procès, c'est que finalement, dans un procès, par exemple, il y a les moments, entre guillemets, de médiation, c'est-à-dire où on peut échanger, les moments d'arbitrage. Et ce que vous dites, c'est que finalement, quand la décision a déjà été faite, par exemple, sur la notation, il y a déjà eu un arbitrage à côté. Et donc, on peut parler. Alors que là, finalement, dans le privé, enfin en tout cas les exemples qui ont été cités, finalement le moment de médiation et d'arbitrage sont confondus. Et je dirais avec tout l'aspect potentiellement pervers, parce que tout ce que vous avez dit dans l'espace de médiation qui est un espace de confiance, a priori,
peut voilà, se retourner contre vous. Je donne juste quelques exemples. Je renvoie aux travaux de Pierre Legendre, donc, qui est un anthropologue du droit et qui analyse le rôle des procès et qui dit ce qui est important dans un procès, c'est que vous pouvez dire des choses à quelqu'un et ces choses-là ne se retourneront pas contre vous. C'est-à-dire ce que vous dites, par exemple, à l'avocat, vous le dites en toute intimité. Et si par contre l'avocat était aussi votre juge, on tomberait dans le problème que vous avez dit avant, c'est-à-dire celui du jugé parti.
Merci. On va inviter Jean-Claude Casalegno à prendre la parole.